Sans surprise, nous poursuivons aujourd'hui notre parcours sur la première épître aux Corinthiens. Pâques oblige, la dernière fois que j'étais venu ici, nous avions fait la dernière fois une petite excursion au chapitre 15 qui traite de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous reprenons le cours initial qui nous avait conduit jusqu'au début du chapitre 4. On va resituer un peu les points importants qu'on a vus au cours des trois premiers chapitres, dans lesquels Paul a fait en fait deux reproches aux Corinthiens. Le premier, c'était qu'en se divisant en écoles de pensée, en se revendiquant de tel ou tel maître à penser, Apollos, Pierre et Paul lui-même, un peu à la manière des écoliers avec leurs professeurs, ils agissent de manière puérile. Et puis le deuxième reproche, c'était qu'en valorisant la force de persuasion, l'éloquence, au détriment de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la faiblesse, à l'exemple de Christ, en cédant à la culture ambiante qui valorise l'homme fort, ils altèrent le sens de la croix d'un Christ humble, méprisé, crucifié pour le salut des hommes. Et ainsi, ils témoignent d'une grande immaturité avec un profil de croissance qui ne suit pas du tout le modèle que Paul a l'habitude de constater dans les autres communautés. Il y a un constat qui s'en trouve résumé dans le verset 2 du chapitre 3 que nous avons déjà lu. « C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors, et même aujourd'hui vous êtes encore incapable de la supporter. » Un constat donc dur, sans appel. On dit toujours que dans une prédication, il faut faire ressortir la bonne nouvelle contenue dans le texte. Et à cet égard, cet épître aux Corinthiens est un véritable défi. Et ce que nous allons voir aujourd'hui ne va pas fondamentalement inverser la tendance. Nous allons donc lire au chapitre 4, les versets 6 à 13. Alors attention, parce que je poserai des questions après cette lecture, et c'est volontairement que je n'affiche pas le texte, pour que nous soyons très attentifs et que nous retenions les points importants, le sens général. Chantal.
Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble que plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité.
Merci. Voilà donc le texte qui va faire l'objet de nos réflexions. Avant d'entrer dans le détail, prenons-le dans sa globalité, de vous poser quelques questions. Si, la première question, comme ça, si nous étions les Corinthiens, et si c'était à nous que Paul s'adressait ce matin, comment est-ce que nous recevrions son propos? Quel sentiment ces paroles susciteraient en nous? La parole est à vous. N'hésitez pas, comme ça vient.
Je pense que je prendrais vraiment comme un reproche.
Merci. D'autres... Oui. D'accord. Troisième. Voilà. Ok. Ok. Quel est le sujet général ? Sur quel point en particulier Paul met le doigt ? Ouais. Le mot est cité, hein. Ok. Bien, bah écoutez, je peux rentrer chez moi. On va reprendre tout ça dans le détail. Est-ce qu'on peut lancer, c'est bon pour nous, la première diapo ? Qui reprend, j'ai la main, oui, merci. Le verset 6. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Alors, pas de chance pour commencer. Ce verset présente une grosse difficulté d'interprétation, et de ce que j'ai lu dans les commentaires des commentateurs, aucun ne mettrait sa main à couper sur le sens de ces mots. Et en particulier la formule qui est rendue ici par « ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ». Voilà, c'est très bien. C'est un peu flou là-haut, donc je suis obligé de faire contrôler ici. « Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit », qui pose vraiment un sérieux problème au traducteur. Et en fait, en la lisant, si on la sort de son contexte, cette recommandation de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, ça semble être un argument tout trouvé pour défendre le fameux sola scriptura qu'on a chéri, hein, en tant que protestant, un peu comme les avertissements du Deutéronome de s'en tenir à la parole de Dieu, de ne rien ajouter, de rien enlever. On aurait vraiment envie volontiers de citer ce texte, ce verset, dans un débat d'apologétique ou face à des tendances relativistes de la Bible. Et bien, sauf que non, la traduction n'est pas du tout certaine, et surtout le contexte n'est pas du tout là. Et d'ailleurs, la fin du verset nous replonge tout de suite dans le contexte avec la recommandation de ne pas prendre le parti de l'un contre l'autre, c'est-à-dire de ne pas utiliser les paroles d'Apollos contre Paul et vice-versa. Et nous avons ici vraiment la recommandation finale et la conclusion de Paul sur toute cette histoire des maîtres à penser que se sont attribués les Corinthiens. Toujours au sujet de cette formule un peu énigmatique, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, je résiste quand même difficilement à l'envie de vous livrer une interprétation sous toute réserve, mais qui m'a quand même bien plu, qui dirait que Paul citerait là un dicton de son temps qui n'aurait pas d'équivalent aujourd'hui, qui n'aurait d'équivalent qu'à son époque et dans son lieu. Comme par exemple, je prends un exemple, quand on dit dans une discussion, Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Dans la discussion, il n'est ni question ni d'ours ni de roi. Hein. Ce sont juste des formules toutes faites qui ont pour but de souligner le sens d'un propos. Quand on les cite, tout le monde sait de quoi on parle. Et donc peut-être que Paul a fait l'usage là d'un tel dicton que l'histoire a oublié pour préciser le sens de son propos. Son propos qui était, je vous le rappelle, recentrons-nous, cessez de nous instrumentaliser, Apollos et moi, vous les Corinthiens. Peut-être que c'est ça, c'est une interprétation que j'ai bien aimée. Je vous la donne comme ça sous toute réserve. Je la laisse à votre appréciation. Tout en sachant qu'un gros doute pèse sur ce sujet. Bien entendu, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, c'est une règle tout à fait pertinente, sauf que ce n'est pas de ça dont Paul parle ici. On ne peut donc pas faire référence à ce verset pour en défendre le principe. Néanmoins, Paul lâche une expression qui donne le ton pour la suite et qui a quand même dû faire bondir les Corinthiens. Laurence a dit agacée, qu'elle serait agacée si c'était ainsi qu'on s'adressait à elle, et à juste titre, s'enfler d'orgueil. Et pour le coup, sur ce terme-là, il n'y a aucune difficulté d'interprétation ou de traduction. Avec cette expression, on a tout de suite en tête l'image de la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, pour ceux qui la connaissent. Le mot est lâché, l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? En fait, on s'étonnerait presque de ce que le mot n'apparaisse que maintenant, car en effet, ce besoin de se faire valoir au détriment du message d'un Christ crucifié, c'était déjà de l'orgueil. Christ crucifié, bof, on avait dit déjà, les Corinthiens avaient mieux que ça à proposer. Et c'est aussi, au fond, ce qui motive leur division en école de pensée. On n'est généralement pas fier en soi d'être fort, intelligent, courageux, mais de l'être plus que les autres. L'actualité internationale nous fournit un personnage parfait pour illustrer ce principe. Dans la parabole, le publicain donne aux pharisiens le prétexte pour se dire que lui, au moins, il n'est pas comme cela, comme celui-là. Vous connaissez sans doute cette formule, « Quand je me considère, je me méprise, mais quand je me compare, je m'estime. » Les autres sont très pratiques pour se trouver de bonnes raisons de minimiser ses torts quand ce n'est pas de surévaluer ses mérites. Dans ce verset, nous avons vraiment un point charnière de notre épître qui se trouve là. La cause du problème est identifiée, c'est l'orgueil. Jusqu'à présent, nous n'en avions que les effets, les conséquences au sein de la communauté corinthienne. Je pense que si Paul avait commencé son épître en disant « Il y a de l'orgueil chez vous et maintenant je vais vous expliquer pourquoi », ça n'aurait pas eu le même effet. Mais tout le développement des trois premiers chapitres s'attache à exposer les faits, ou plutôt les méfaits, et à arriver à ce point, l'orgueil devient une évidence. Et il explique tout naturellement ensuite la futilité et l'inconsistance de l'orgueil au verset 7, car ce qui te confère une distinction, qu'as-tu qui ne t'ait été donné, et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Et quand bien même tu posséderais toutes les qualités dont tu te vantes, y es-tu pour quelque chose? Les as-tu acquises par ta clairvoyance, tes efforts, ton travail, ta richesse? Et quand bien même, d'où tiens-tu cette clairvoyance, ce sens de l'effort, cette capacité de travail, cette aisance financière? Et on pourrait remonter très loin dans ce raisonnement et peut-être même y tourner en rond. Et bien évidemment, c'est encore pire si c'est faux, si nous nous vantons de qualités que nous ne possédons pas. Alors, dit comme ça paraît improbable, mais Dans certains cas, ça permet que c'est très pratique pour anticiper les défaillances. Chantal m'a souvent parlé du syndrome de l'ouverture facile. Je vais quand même vous décrire un peu ce que c'est. C'est quand vous prenez un paquet de jambon ou quelques denrées alimentaires sous emballage et puis que c'est marqué ouverture facile. Et bien là, presque chaque fois, vous êtes sûr de galérer. Et c'est comme si on avait marqué, on a fait tous ces efforts pour que le fabricant avait fait tous ses efforts pour que l'ouverture soit facile, mais qu'il ne soit pas arrivé, et qu'en fin de compte, il ait mis ouverture facile pour montrer qu'il a pris en compte votre problème. Et puis, peut-être aussi, c'est peut-être vous qui avez un problème, que ça ne savait pas vous en servir. Quand on éprouve le besoin de se défendre par avance de l'existence d'un problème, c'est souvent qu'il y a un problème. Une personne arrive en retard en s'excusant d'habitude, non, elle n'est jamais en retard. Vous pouvez être presque certain qu'elle arrive très souvent, la plupart du temps, en retard. Si quelqu'un, en prenant la parole, vous dit « je ne vais pas être long », c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Paul exprime ici clairement ce que nous savons tous au fond de nous. L'orgueil n'a pas de raison d'être. L'orgueil, ça ne se justifie pas. Alors déjà dans le monde, mais quoi ? Mais alors dans l'Église ? Dans l'Église où le plus glorieux s'est abaissé jusqu'à se laisser traiter comme le dernier des malfaiteurs ? Où aucun n'est sauvé sur la base de ses mérites ? Où tous sont rachetés par l'amour et le don gratuit d'un autre ? L'orgueil, c'est nul, en fait. L'orgueil, ça repose que sur du vent. Et s'il n'est pas combattu, il ne fait qu'enfler. Même le corps dont nous disposons, avec ses forces et ses faiblesses, nous a été donné à la naissance. Tiens, voilà, ça c'est pour toi. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que nous devons mépriser cette capacité à performer aux 100 mètres ou engranger des connaissances, mais ça nous conduit vers notre champ d'action, notre domaine de compétences, et ça nous donne une responsabilité, pas une supériorité. Une petite précision sur la fin du verset, comme si tu ne l'avais pas reçu, il faut vraiment comprendre comme si ça ne t'avait pas été donné, ou dit autrement, comme si tu ne le devais qu'à toi-même, ou comme si tu y étais pour quelque chose. Plus précisément, en rapport avec le contexte, ton sentiment d'appartenance à un soi-disant maître à penser au détriment d'un soi-disant autre n'est plus ni moins qu'une forme de gloriole, sans fondement, sans aucune justification. Vous l'avez dit, hein, ce n'est pas des bonnes nouvelles. On continue. Nous allons relire les versets 8 à 13 et on va les prendre en bloc cette fois-ci.
Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde, et traité comme le rebut de l'humanité.
Merci. Ah, je suis désolé, moi j'ai perdu la main sur le... Si, c'est bon. Je ne peux plus revenir en arrière. On va laisser la technique s'en occuper. Pour ceux qui ont vu le film « Le Père Noël est une ordure », je ne sais pas si vous vous souvenez du voisin bulgare qui débarque là, un peu comme un cheveu sur la soupe, et qui, en fait, qui dérange tout le monde par sa présence et par ses paroles, mais qui ne perd pas le nord quand même, et qui à un moment a cette expression « Oh, il est caustique hein, !» Pas si vous vous souvenez de ça. Mais oui, la Paul est caustique. Ces versets-là sont ceux où il manie l'ironie avec le plus de vigueur parmi toutes les épîtres. Je vais redire en faisant peut-être plus ressortir cette ironie. Et donc vous, les Corinthiens, vous régnez en maître parmi les sages. Vous êtes déjà parvenus à un niveau de sagesse supérieur. Nous, les apôtres, nous sommes traités comme la ligne d'humanité. Nous suons sur cette terre dans l'espérance du royaume à venir. Tandis que vous, vous y croyez déjà. En vous prélassant, en sirotant votre cocktail philosophico-spirituel arrosé d'autosatisfaction. Comblé de dons, déjà rassasié, déjà arrivé, vous n'avez plus rien à attendre. C'est tout juste si vous ne prouvez pas que nous, les apôtres, traînons en arrière, que nous avons pris un train de retard. Nous nous trouvons ici au cœur d'une conception triomphaliste de la spiritualité. Cette conception est en lien avec la difficulté des Corinthiens à fonder leur foi sur la croix du Christ. Le don de l'Esprit les a fait passer dans une sphère supérieure. Ils vivent dès à présent une existence de ressuscité. Ils sont au-dessus des vicissitudes de l'existence ordinaire des humains, du ménage pour l'Église. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont besoin de rien. Les expressions comme dès à présent. Ah ben voilà notre texte. Très bien. Donc les expressions dès à présent, déjà, jusqu'à présent, montrent bien que c'est la temporalité qui est au cœur du sujet. Nous nous trouvons typiquement dans la tension qui existe entre le déjà et le pas encore, à laquelle nous sommes tous confrontés en tant que chrétiens. Et l'erreur corinthienne est une erreur d'impatience et d'anticipation par rapport au royaume qui, lui, est encore à venir. Et vu que pour eux, le royaume, c'est déjà une réalité, la différence qu'ils constatent avec les croyants qui ne vivent pas cette réalité provient, à leurs yeux, d'une différence de niveau spirituel. Eux sont un niveau au-dessus. La déclaration « Déjà, vous voilà riche » nous fait penser quand même assez fortement à celle de l'ange à l'église de la Odyssée, hein. Cette interpellation, tu dis « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Mais la réponse constitue un vigoureux démenti. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Alors Paul ici n'utilise pas le démenti, mais l'ironie, en juxtaposant la situation des Corinthiens à celle des apôtres. Implicitement, il les provoque. Vous nous auriez donc devancés dans le royaume des cieux. Chapeau, les Corinthiens. Quand on connaît la suite de l'épître, où Paul va pointer un par un tous les problèmes de cette église, l'inceste, les procès entre chrétiens, l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, la légèreté dans la prise de la Sainte-Cène, le désordre dans le culte, Le doute en la résurrection, et pour cause, pour eux, elle est déjà là. On comprend mieux l'ironie caustique dont il fait usage ici. Le contraste décrit par Paul entre la situation des Corinthiens et celle des apôtres met en évidence une séduction, celle du succès, de la réussite. L'église de Corinthe cultive une image d'église dans le vent. L'église de Corinthe, c'est l'église où il faut être. Or, la ferveur et le zèle des chrétiens, la croissance numérique, les finances florissantes ne sont pas les seuls marqueurs d'une spiritualité authentique, ce qui prouve le caractère spirituel d'un homme ou d'une œuvre, c'est sa fidélité. On l'a déjà vu dans ce même chapitre, au verset 2. En fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pas qu'ils aient du succès. Si le succès arrive, si la réussite arrive, c'est une grâce, merci Seigneur. Mais attention, car le succès et la réussite attirent plus les hommes que la fidélité. Et c'est précisément la séduction à laquelle ont succombé les Corinthiens. En tirant gloire de leur succès, en se comparant à d'autres qui connaissent plus de difficultés, ils ont cessé d'être spirituels, car c'est précisément quand ils se sont crus plus spirituels qu'ils sont devenus charnels. Ça, c'est Corinthiens. Mais j'ai encore une autre mauvaise nouvelle. Cette épître n'a pas été écrite que pour eux. Si elle avait été écrite que pour eux, elle ne serait probablement pas arrivée jusqu'à nous. Alors bien sûr, dans l'intention de Paul, elle s'adressait prioritairement aux Corinthiens, mais l'Esprit l'a inspirée, c'est ce que nous croyons, de telle manière qu'au-delà de cette situation caractéristique, les croyants et les églises de tous les âges soient avertis, voire repris, au sujet des dangers de l'orgueil spirituel, de la suffisance spirituelle, de l'autosatisfaction spirituelle. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que ces penchants tout humains ne cherchent pas à reprendre le dessus. Il n'y a aucune raison que notre ennemi le diable ne cherche pas à les utiliser insidieusement, comme il sait très bien le faire, pour limiter les dégâts, les effets de l'avancée du royaume de Dieu sur son propre royaume. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, enfin. Nous ne sommes pas condamnés à reproduire les erreurs des Corinthiens. C'est triste pour eux, mais nous avons le contre-exemple de leur expérience sous les yeux. Nous avons les mises en garde, ici et ailleurs, dans les épîtres du Nouveau Testament, Paul bien sûr, Pierre, Jacques, Jean, Jude, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Alors il est très probable qu'un jour ou l'autre, nous ayons cédé à l'orgueil spirituel et nous pouvons, comme tout péché, nous en repentir et recevoir le pardon de Dieu. Peut-être la particularité et la difficulté avec ce péché, c'est qu'il est difficile à dénicher. L'orgueil spirituel, il est au cœur de la chute originelle, puisque c'est précisément là que l'homme, à l'instigation du diable, a commencé à croire qu'il n'avait plus besoin de Dieu, qu'il était capable, par ses propres découvertes, ses propres explorations, d'accéder un statut supérieur dont Dieu lui barrait l'accès. Et notre situation n'est pas très différente, au fond. Parce que déjà, par la grâce de Dieu, nous sommes régénérés en Christ, en une nouvelle création. Déjà, Dieu nous a envoyé son esprit. C'est ce que nous avons rappelé la semaine dernière, lors de la Pentecôte. Mais aussi, il y a tout un domaine spirituel auquel nous n'avons pas encore accès. Nous n'avons pas encore vu Dieu face à face. Nous n'avons pas encore contemplé la gloire de notre Seigneur auprès du Père. Nous n'avons pas encore pris possession de notre corps de résurrection. Il y a tant et tant de choses qui nous sont déjà destinées, mais qui ne sont pas encore à nous. Que nous soyons impatients d'y accéder, ça c'est une chose, et une chose que je partage. Mais nous devons savoir que ce ne sera ni sur cette terre, ni avant l'heure. L'heure est à l'humilité. L'heure est à l'obéissance. L'heure est à la fidélité. Avec les Corinthiens, nous avons un contre-exemple. Mais avec Christ, nous avons un modèle.